France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. On fait le plein d'initiatives en Essonne cette semaine, département de la région Île-de-France, au sud de Paris. Aujourd'hui, je reçois d'abord une créatrice de chaussures qui utilise du cuir recyclé et des algues, notamment. Et ensuite, un paysan qui fait bouger les lignes à sa petite échelle. Il a d'abord converti en bio la ferme familiale et désormais, il devient paysan boulanger pour maîtriser toute la chaîne de production, du blé à la baguette. Il travaille en outre avec les fermes voisines. On partage les machines, on se donne des coups de main. Et cela permet, ça n'est pas rien dans le contexte actuel, d'ouvrir une boulangerie. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Des baskets qui ne piétinent pas la planète. C'est ainsi que sont présentées les chaussures de la marque Iconaut, dont le siège est en Essonne, à Milly-la-Forêt. Bonjour Mélissa Angeldi.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice d'Iconaut, qui vend des chaussures en cuir recyclé, notamment. Le nom de votre entreprise est une référence à la mythologie, c'est ça? Qui sont Ico et Naut?
Tout à fait, c'est de la mythologie grecque. Alors, Ico, c'est la déesse phrygienne du feu et Naut, c'est la déesse nordique de la glace. Du coup, c'est les deux plus gros éléments terrestres que j'ai rejoints pour créer ma marque Iconaut.
Comment ce choix s'est-il imposé? Pourquoi du cuir recyclé pour vos baskets?
Du cuir recyclé parce que aujourd'hui, on produit énormément de matière, mais on le recycle très très peu. Il y avait beaucoup de stocks dormants et depuis 5 ans, l'Union européenne a interdit aux grandes maisons de manufacture de les incinérer ou de les jeter. Mmh. Du coup, moi, ça fait mes affaires. Je prends du cuir de très haute qualité que je recycle pour faire mes baskets. Et il a un label qui s'appelle GRS, Global Recycled Standard, qui permet de tracer vraiment le cuir de A à Z de la chaîne et d'être sûr qu'il soit recyclé pour mes chaussures.
D'où vient le cuir que vous recyclez?
De très grandes maisons de manufacture françaises, c'est moi qui vais les chercher. Donc elles sont toutes en France et après je les fais monter au Portugal.
Donc c'était des canapés par exemple?
C'est ça, des canapés, des sacs à main aussi. Et sinon c'est aussi des stocks dormants qui n'ont jamais été utilisés et que j'utilise moi pour mes chaussures.
Vos chaussures sont fabriquées au Portugal, Mélissa Angeldi. Pourquoi ce choix?
Alors, le Portugal, parce qu'ils ont un énorme savoir-faire en termes de souliers, de création de souliers et de la manip du cuir. Et en plus, en France, ça a été très compliqué pour moi il y a 5 ans, parce que j'avais 24 ans, pas d'entreprise, pas d'expérience dans le secteur non plus. Et c'est vrai que les manufactures françaises étaient un peu réticentes à m'ouvrir leurs portes. Et en termes de quantité de production, c'était quand même énorme. Alors que le Portugal était beaucoup plus flexible par rapport à ça. Et en plus, ils ont un grand savoir-faire. C'est à 1150 kilomètres de Milly-la-Forêt. Donc je me suis dit qu'en termes de bilan carbone, on était quand même bien aussi.
Vous avez l'espoir ou le projet de rapatrier la production en France un jour?
Je sais pas. J'essaye de surtout prendre les matières en France pour que la réduction de l'empreinte carbone soit quand même intéressante et puis savoir d'où viennent les chaussures et les matières surtout. Mais le Portugal a quand même un très grand savoir-faire et en termes de tarifs pour les clients, c'est plutôt intéressant.
Cuir recyclé, disait-on, ça c'est pour l'un des modèles. Un autre est fabriqué en plastique recyclé.
Oui, tout à fait. Il y a le modèle Phoenix qui, lui, est en plastique recyclé en entier. Et aussi avec du mesh. Donc, c'est-à-dire que c'est la matière en plastique qui est au-dessus des chaussures de sport pour permettre aux pieds de respirer. C'est avec des petits points, c'est assez visible à l'œil nu. Et du coup, ça, c'est du plastique recyclé, ouais.
Alors, c'est toujours un peu compliqué de l'extérieur de voir si une marque est effectivement éco-responsable ou si c'est du greenwashing, comme on dit.
Tout à fait.
Votre entreprise a été évaluée par le mouvement Impact France qui scrute l'impact écologique et social des entreprises. C'est une sorte de Nutri-Score écologique et social. Et votre note est de 87 sur 100. Êtes-vous satisfaite de cette note?
Oui, je suis très contente de cette note. En plus, on a essayé avec le mouvement Impact Score de pouvoir, avec eux, aider à ce Nutri-Score, on va dire, cet Impact Score. Parce que nous, on est une toute petite société, on est deux dans la boîte. Et on a réussi à créer avec eux, on va dire, des panels d'entreprises. Et donc, nous, on se tape dans les plus petites sociétés, mais avec un 87 sur 100, qui est une très belle note. On fait partie de moins de 1% des sociétés françaises à avoir une note aussi haute. Et donc, ça permet de labelliser notre marque avec ça. Et en même temps, avec tous nos labels qu'on a, nous, dans nos chaussures.
Il y a une autre matière dont on n'a pas parlé dans vos chaussures, c'est assez étonnant, hein. Ouais. C'est du liège, exactement comme les bouchons en liège.
Tout à fait.
La semelle est en liège et ça vous a permis de remporter l'année dernière le concours L'Épine, Mélissa Angeldi.
Oui, tout à fait. En fait, la semelle de toutes mes chaussures à l'intérieur est en recouvrement avec du liège qui permet antibactérien, respirant pour les pieds. Donc c'est vraiment une super matière. En plus, il est labellisé FSC qui permet vraiment de savoir que la forêt a été bien structurée pour pouvoir avoir le liège. Et en plus, elle a mémoire de forme, donc ce qui permet aux pieds d'être bien confortable dans ses chaussures au fur et à mesure de la journée et de pas avoir une semelle qui s'aplatit avec le temps. Et grâce à ça, on a eu le prix du concours L'Épine l'année dernière et j'en suis très heureuse.
Vos chaussures sont recyclées mais aussi recyclables. On peut vous les rendre à la fin de leur vie ?
Oui, à la fin de leur vie, vous pouvez me les renvoyer et moi je vous donne un petit bon de réduction pour pouvoir racheter une paire de chaussures chez nous et continuer l'aventure Iconote. Et nous, on les recycle en entier dans une manufacture en Bretagne.
Parlons des prix d'Iconote, s'il vous plaît, 130 euros la paire de baskets. On doit vous dire parfois que c'est trop cher de s'habiller avec des marques éthiques.
Tout à fait. On me le dit souvent, moi ce que j'essaye de faire, c'est de faire un ratio par rapport à ce qu'on achète dans le marché quand il n'y a pas de réduction. Par rapport à une paire de Stan Smith, on est à 120 euros, la mienne est à 129 et elle est en matière 100% recyclée, faite par une start-up française, donc... J'essaye d'être sur le même prix. Après, c'est sûr que j'ai pas les mêmes volumes et j'ai pas la même ancienneté non plus que les grosses marques. Mais je pense que pour une marque comme la mienne, c'est plutôt intéressant. Et puis c'est surtout qu'elle dure dans le temps, donc c'est ce qu'il faut voir aussi.
On entend bien que vous avez à cœur de réfléchir à toutes les manières d'améliorer votre impact avec cette entreprise qui vend des baskets. Est-ce que vous avez repéré un secteur sur lequel il y a encore une marge de progression, du mieux à faire quelque part, Mélissa Angeldi ?
Bah toujours, il y a toujours du mieux à faire quelque part. Mes dernières chaussures, les Phoenix, donc c'est une basket tout terrain et la semelle est en algues et la semelle tout terrain, ça fait 2 ans que je suis en recherche et développement dessus, donc je suis très fière de l'avoir créé, d'avoir réussi à le faire. En début d'année on me disait de ne plus le faire parce que l'écologie, bah, même si c'était hyper important, c'est très compliqué à le créer sur notre propre territoire parce que tout le savoir-faire est parti en Asie et moi j'essaye de ramener ce savoir-faire là en France ou même au Portugal pour pouvoir créer des baskets toujours plus éco-responsables, performantes et éthiques.
Et donc, quelles sont vos marges de progression pour demain ?
Oh bah c'est les paires de baskets dans des secteurs très recherchés, comme le trail, la course sur route. Donc, il y a vraiment des savoir-faire à ramener dans ces matières-là. Et j'aimerais beaucoup faire des baskets vraiment pour chaque sport. Par exemple, au rugby, je sais que les crampons, c'est une catastrophe écologique. Et j'aimerais vraiment aller sur ce genre de terrain.
Vous n'êtes pas loin de la forêt de Fontainebleau, à Milly-la-Forêt. Est-ce que vous faites un lien entre ce territoire et votre création d'entreprise ?
Oui, tout à fait. En fait, sur mes chaussures, on voit des petites montagnes. Et c'est le circuit des vins de Saint-Bosse à Fontainebleau. Je la arpente pratiquement tous les jours avec mon chien. C'est vraiment ma dose d'oxygène. Et c'est vrai que la forêt de Fontainebleau m'aide à respirer en tant qu'humain. Et en même temps, pour ma société, je trouve que c'est hyper important de faire attention à notre planète. Et moi, je vois les changements de climat et de température qu'il y a dans la forêt. On n'a plus de neige, j'en avais avant. Il y a beaucoup de feux de forêt en été parce que c'est trop sec. Donc voilà, tout le changement climatique se voit immédiatement, même dans nos jardins. Et ça me donne encore plus envie de me battre pour chausser les gens de manière plus éco-responsable. Ouais.
Voilà, Iconote, I-K-O-N-O-T, ce sont deux déesses de la mythologie grecque, marque de basket donc installée à Milly-la-Forêt en Essonne. Merci beaucoup Mélissa Angeldi.
Bah, merci à vous.
Et bonne journée.
Merci.
France Inter. Carnet de campagne.
Il est midi 40, toujours en Essonne, mais un peu plus à l'ouest, tout proche des Yvelines. Nous voici à Rouenville. Dans ce village de 1300 habitants, la boulangerie a mis la clé sous la porte il y a 3 ans. Alors un paysan a décidé pour l'occasion de devenir paysan boulanger. Bonjour Camille Desflaches.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Merci. Et merci de passer nous voir en studio. Vous avez repris il y a une dizaine d'années la ferme familiale, production de céréales. Vous l'avez convertie en bio, petite ferme de 50 hectares. Et puis un jour... Comme je le disais, la boulangerie de la commune a fermé. Est-ce que vous vous êtes senti investi d'une mission ce jour-là ?
Alors pas d'une mission, mais c'est juste un projet perso. J'avais envie de vivre de mon métier d'agriculteur, tout simplement.
Et c'était pas le cas ?
Non.
Pourquoi ?
50 hectares en céréalier, c'est peu, pas assez pour vivre, voilà, tout simplement.
Et pour passer du blé au pain, il fallait un moulin. Comment procédez-vous concrètement ?
Alors, contrairement aux années précédentes, déjà, je ne vends pas mon blé en coopérative, je le stocke. Après, je le nettoie, je le trie. Ensuite, je passe dans un petit moulin à strier, donc modèle de moulin très simple, de meule de pierre, voilà, assez rustique, assez facile à utiliser. Voilà.
Votre boulangerie paysanne a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine à Roinville, en Essonne. Comment ça se passe pour l'instant ? Est-ce que les affaires marchent bien ?
Il y a une clientèle qui est plutôt curieuse pour le moment. Donc on prend la température, on ne sait pas trop. Les gens sont tous contents, la plupart. Assez réceptifs au local, à l'agriculture biologique. Pas tous, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et voilà.
Et donc, vous êtes désormais paysan, meunier et boulanger. Voilà. Est-ce que vous trouvez que ça donne du sens à votre métier de travailler ainsi du blé au pain ?
Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est cohérent. Et en effet, de pouvoir vivre de mes 50 hectares comme l'ont fait mes grands-parents avant, parce qu'avant les fermes étaient bien plus petites et ils arrivaient à vivre de leur métier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, je trouve ça cohérent. Et puis en plus, en local, voilà, ça a été une évidence de reprendre la boulangerie du village, en fait, tout simplement.
C'est une manière de vivre de son métier sans céder à l'agrandissement des parcelles. C'est vraiment le phénomène massif hein, en agriculture en France. Vous essayez ainsi de résister à ce phénomène, Camille ?
Bah oui, enfin je pense surtout. Enfin moi personnellement, j'ai pas le choix, j'ai pas les moyens. On peut pas accéder comme ça à des centaines d'hectares. Et enfin voilà, en tout cas, je voulais faire autrement.
Vous produisez du pain au levain, des gros pains de conservation, hein, comme on en voit de plus en plus dans les boulangeries en France. Est-ce que vous sentez que cette habitude de consommation s'installe chez les gens ?
L'avenir nous le dira, je sais pas. Moi j'aime bien, c'est mes goûts aussi. Voilà, les pains au levain, des pains qui ont du goût, des pains un peu plus cuits, un peu plus gros, qui chantent comme disent les boulangers, voilà, qui croustillent. On se passe de levure, pareil. On se passe aussi des machines, des façonneuses. Donc on façonne à la main. Donc j'ai deux boulangers qui travaillent et qui font du pain comme on faisait. Il y a des centaines d'années, voilà, ou plus même.
Et puis on évite de gaspiller parce que ça se conserve beaucoup plus longtemps. C'est quand même ça l'enjeu.
Aussi, exactement. Voilà. Alors, on fait quand même une baguette de tradition voilà, qui va se garder peut-être un jour, hein, c'est tout. Mais parce que les clients veulent quand même leur baguette. Nous, en France, on est très attachés à la baguette. Mais voilà, j'essaye de les orienter. Donc on vend la baguette et puis après, j'essaie de leur proposer des gros pains au levain qui se gardent en effet plus longtemps. Et voilà.
Qu'est-ce qui vous rend fier, Camille ?
Qu'est-ce qui me rend fier d'avoir repris la ferme de mes grands-parents, tout simplement, déjà. Voilà. Et on verra dans quelques années, mais d'en vivre. Hein, voilà. Et d'être sur les lieux, enfin voilà, ça fait, je sais pas, plusieurs générations qu'on est là, et d'avoir repris, de redonner vie aussi à ce petit corps de ferme, parce que c'est un tout petit corps de ferme avec des bâtiments où aujourd'hui les tracteurs rentrent difficilement. Par contre, rentrer un moulin et quelques tonnes de blé par semaine, c'est cohérent, et ce petit corps de ferme reprend vie, c'est chouette.
Et comment a été perçu votre passage en bio ?
Au niveau de la famille ou... Donc c'est ma grand-mère qui m'a cédé sa ferme et il y a eu des longues discussions et ça a été compliqué. Voilà, elle était plutôt dans une agriculture classique de l'époque, conventionnelle, et pour elle, elle ne connaissait pas, donc elle ne savait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à lui prouver que c'était possible en bio et depuis quelques semaines aussi, en transformant voilà, ma farine et en faisant du pain. Donc,
elle a changé d'avis ?
Je crois, j'espère. J'espère, en tout cas, je crois qu'elle est fière de moi, qu'elle est contente et on l'embrasse, on pense à elle.
Votre ferme travaille en étroite collaboration avec les fermes autour et ça, c'est important pour vous ?
C'est important, c'est nécessaire. J'aurais pas pu faire autrement, en fait. J'aurais pas pu prendre la ferme sur 50 hectares si j'avais pas une entraide qui était installée avec mes voisins.
Et comment ça marche concrètement, cette entraide ?
On partage le temps de travail, le matériel, les chantiers, et on est plusieurs à travailler en même temps dans le même champ. Au lieu d'être chacun chez soi avec chacun son matériel, ça permet de nous alléger sur les horaires et ça m'a permis, typiquement pendant la période de semis, là, qui était il y a quelques semaines ou encore maintenant, d'ouvrir une boulangerie. Voilà, donc c'est très chouette, je pense à eux.
C'est pas quelque chose de très fréquent chez les céréaliers ?
Pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est avant, chacun travaillait dans son coin, prenait des crédits sur beaucoup d'années pour acheter chacun son matériel, chacun son tracteur, tout le monde se regardait. Alors, nous, peut-être pas forcément que en bio, mais en tout cas, il y a autre chose qui se fait et c'est très chouette. Et ça évite d'être tout seul dans son champ avec ses questionnements, le climat, est-ce qu'on y va dans le champ, est-ce qu'on y va pas, est-ce que c'est le bon moment. Et puis les pannes aussi, voilà, quand on tombe en panne à plusieurs, et au moins on n'est pas tout seul. Et c'est moins douloureux que d'être seul, je pense.
C'est le bon sens paysan, finalement.
Exactement, c'est le bon sens paysan.
Merci beaucoup, Camille Desflash, patron de la boulangerie paysanne de Roinville, en Essonne. Bonne journée.
Merci, bonne journée.